Tous, ça va bien? Ce matin, on a quelque chose de spécial à vous partager avant d'aller au message de la parole de Dieu. Comme les techniciens, vous l'aurez remarqué, la semaine dernière, on n'a pas trouvé encore où était l'antenne sur mon corps. Je vais prêcher encore une fois, pas de veston ce matin. On est en train d'étudier un implant possible, là. Une antenne. Un peu. On va y arriver. Alors, avant de tourner dans la parole de Dieu, ce matin, on a quelque chose à vous partager. Vous allez voir, j'ai écrit mon texte un peu parce que je ne voulais pas non plus vous prendre une demi-heure pour ça, puis je ne voulais pas peut-être être un petit peu maladroit. C'est quelque chose qui est important, qui est sur notre cœur. Un beau projet, je crois. Donc, c'est un projet qu'on vous amène comme une requête de prière à l'Église. D'accord? Quelque chose qu'on veut vous demander de porter avec le Conseil des anciens dans la prière. On en a parlé lors de la rencontre avec les responsables de ministère et les responsables de petits groupes le 22 novembre. Et on avait encouragé les gens présents à en parler dans les petits groupes. Même, vous avez eu des feuilles d'engagement probablement à la prière. Alors, vous en avez déjà entendu parler. C'est correct, c'est ça qu'on voulait. On voulait que ça aille dans ce sens-là. Vous savez, on forme une assemblée, une congrégation de plus ou moins 300 personnes lorsqu'on parle des adultes et des enfants. Des fois, on peut avoir l'impression dans la salle qu'on est 500. En réalité, sur une base régulière, plus ou moins 300 personnes, adultes et enfants, fréquentent l'assemblée ici. C'est quand même une assemblée moyenne. Et avec l'appel que le Seigneur a placé sur le cœur de la famille Joseph, ce printemps dernier pour partir à l'église de Gatineau, eh bien, depuis ce temps-là, je travaille seul comme pasteur temps plein. On est une équipe, le Conseil des anciens est formé de d'autres anciens, Alexandre Marquis, Michel Famille, Robert Saint-Pierre, moi-même. Je suis le seul qui est à temps plein, d'accord? Les autres ont un emploi séculier ou, comme Alexandre, consacrent du temps à temps plein aux études ou pratiquement. Et il y a aussi Jean-Paul Gagné qui est venu tout à l'heure, qui est là comme ancien en formation. Donc, ce sont les pasteurs, disons que Jean-Paul est en formation, ce sont les pasteurs, un seul est à temps plein depuis le départ de la famille Joseph pour Gatineau. Donc, comme vous le savez probablement, une des premières choses que nous avons fait comme conseil d'anciens à l'époque, au moment de cette annonce-là, on a cherché la face de Dieu, on a prié et puis on a demandé à Danny Gosselin de venir travailler comme adjoint administratif au pasteur. Pour un mandat de 6 mois pour commencer. Danny, vous apprenez à le connaître, vous le voyez en avant généralement pour les annonces. Non, son épouse n'a pas accouché encore. Ils sont encore ici. Ça va se passer mardi au plus tard. Vous pouvez prier pour elle pour que ça se passe bien d'ici là. Alors, donc on a approché Danny, on lui a demandé de venir travailler comme adjoint administratif au pasteur. Et comme en même temps, plusieurs frères et sœurs dans l'Église ont pris de nouvelles responsabilités, je parle de la gestion du comité de bâtiment, du comité de finances, des communications, plusieurs autres aussi. Mais on peut dire que par la grâce de Dieu, avec l'aide de toutes ces personnes qui se sont impliquées davantage, spécialement avec Danny aussi, on pourrait dire que la poursuite de la mission de l'Église n'a pas vraiment ralenti, malgré le départ des Joseph. Le Seigneur nous accompagne dans sa grâce et même, je dirais, au contraire, plusieurs éléments de la vision sont en train de se développer malgré ces circonstances où on pourrait dire, bien, il manque un peu de bras pour pousser ou d'épaules pour mettre à la roue. Mais Dieu, dans sa grâce, permet, au contraire, plusieurs ministères sont en train de prendre leur envol. On parle du ministère d'accueil ou de la fusion, le ministère de visite. Je pense à la jeunesse qui est en train d'avancer, les communications, l'organisation des événements, plusieurs autres. Donc, vraiment, lorsqu'on regarde l'ensemble de la vie de l'Église, nous sommes bénis. Dieu bénit. Il y a des défis particuliers dans différents domaines, mais les choses avancent et c'est vraiment la bonne grâce de notre Dieu qui nous accompagne. Et lorsque le Conseil des anciens, nous nous réunissons pour regarder les années qui sont devant nous, nous sommes encouragés. Vraiment, je peux vous dire, très encouragés lorsqu'on regarde en avant et on pense que le Seigneur est en train de nous faire franchir une nouvelle étape dans l'avancement de l'Assemblée ici. Lorsqu'on a approché Danny comme adjoint administratif, nous lui avons proposé au départ un contrat de 6 mois. Une des raisons pour ça, c'est que, comme on dit en bon québécois, on s'est viré sur un 10 cents. Donc, ça a été très vite et ça demandait de mettre les choses dans la prière. Ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'en septembre, vous n'ayez pas un autre pasteur qui quitte, mais celui-là en arrêt de travail pour épuisement. Et donc, on a approché Danny en disant, on pense que Dieu a mis quelque chose sur ton cœur. On en a parlé avec Rachel pour aller dans le ministère éventuellement. Peut-être le pastorat, peut-être pas le pastorat, peut-être juste un service missionnaire ou quoi que ce soit. On voudrait t'offrir une opportunité. Est-ce que tu veux considérer ça? Un contrat de 6 mois pour commencer, donc qui devrait se terminer en février. Et c'était entendu dès le départ, dans la mesure où Danny s'épanouissait dans son service, dans cette charge-là. Ça ressemble à un travail de super diacre, ce qu'il fait, d'accord? Dans la mesure où lui s'épanouissait là-dedans, dans la mesure où le conseil voyait ça comme la priorité, dans la mesure aussi où le conseil était satisfait de son service, de son ministère, mais à ce moment-là, on considérait de l'inviter à poursuivre et de manière permanente dans ce cas-là. Alors, concernant ce cher compagnon d'œuvre avec qui je travaille déjà tous les jours de la semaine, voici ce que je voulais vous dire. Je ne veux juste pas perdre mes éléments pour oublier des morceaux. Le conseil a jugé ce poste-là prioritaire et en principe, nous devrions ensemble avec Danny continuer, l'inviter à continuer à servir l'Église. Pour moi, c'est une énorme bénédiction d'avoir Danny à côté de moi. Dieu, dans sa grâce, comme je vous l'ai dit, a permis qu'il y ait des gens qui prennent des charges comme le bâtiment, les finances, les communications maintenant. Ça, c'est des morceaux énormes qui font que, par la grâce de Dieu, Danny ne siège pas sur ces comités-là vraiment. Et moi non plus. Je suis présent à titre de conseiller sur le comité de finances, mais honnêtement, je ne fais rien du tout là. Donc, on est vraiment engagé dans le service de l'Église au niveau des personnes. Et ça, c'est une grâce assez extraordinaire. Danny est un homme de cœur, serviable, qui grandit dans son leadership. Ça, c'est mon témoignage envers lui. Et il est tout un appui pour moi et de plus en plus, il me permet de me concentrer sur mon travail pastoral. Et ça, c'est une grâce énorme, une joie pour moi. Je peux faire le reste, ce n'est pas ma passion, ce n'est pas mon appel et ce n'est pas en se distrayant avec un paquet de tâches administratives qu'on arrive à être entier dans la parole de Dieu puis entier pour prier et conseiller les gens à avancer dans le Seigneur. Maintenant, ce matin, aussi étrange que ça puisse paraître, ce n'est pas de Danny que nous voulons vous parler, mais d'un projet d'embauche pour un second pasteur, au début à temps partiel et éventuellement à temps plein. En effet, malgré la venue de Danny sur l'équipe, nous nous devons de regarder vers l'avenir pour poursuivre la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Alors après prière et réflexion, le Conseil des anciens, en évaluant l'ensemble des forces et faiblesses de l'Église, mes forces et faiblesses à moi, quels sont les domaines aussi où il faudrait compenser, celles du Conseil aussi. Le Conseil en est venu unanimement à la conviction que la priorité serait d'embaucher quelqu'un comme pasteur responsable, un homme pasteur responsable du développement et de la formation pour l'évangélisation. Depuis le départ de mon frère Hugo Étier pour l'implantation d'une église à Rivière-du-Loup, on le constate, vous pouvez le constater, l'évangélisation et la formation à l'évangélisation a souffert et ne se développe pas comme elle le devrait. Considérant la mission que Jésus nous confie, ça devrait être une priorité à laquelle plus d'attention est accordée. Donc, il y a un besoin énorme. Il y a d'autres besoins dans l'Assemblée. Est-ce que la jeunesse serait bénie d'avoir un pasteur jeunesse rémunéré pour ça? Est-ce qu'il y a des besoins au niveau des familles, au niveau des personnes seules, au niveau du conseil, ce qu'on appelle des fois la cure d'âme? Il y a plein de besoins aussi. Lorsqu'on considère les priorités, les forces et faiblesses de l'Église, unanimement, avec une conviction entière, le conseil dit « ça, c'est la priorité » et c'est là qu'on veut mettre un accent. Alors, une fois qu'on a établi ça ensemble, le conseil des anciens, on se devait de commencer à prier et commencer à chercher vers qui Dieu pourrait nous conduire éventuellement. Donc, les démarches étaient vraiment préliminaires. On n'était pas venu devant l'Église avec ça encore. On devait venir devant l'Assemblée avec ça, mais on avait commencé à prier et même à ouvrir les yeux un peu à l'extérieur de l'Église, dans l'Église, commencer à réfléchir un peu là-dessus. Maintenant, le Seigneur sait nous surprendre de merveilleuses façons, ça je peux vous le dire. Alors qu'on commençait les démarches et qu'on commençait à regarder à l'extérieur, un frère du milieu de nous nous a partagé un fardeau qu'il avait sur son cœur et il s'agit d'Alexandre Marquis, un de nos anciens. J'avais personnellement pensé à Alexandre. Oh, je pense qu'on vient de changer de micro. J'avais personnellement pensé à Alexandre. Et je pense que d'autres frères aussi au conseil avaient pensé à lui comme candidat possible pour remplir cette charge-là. Mais personne n'osait venir brouiller les cartes pour Alexandre. Moi, le premier, j'ai le privilège de m'investir dans sa vie depuis quelques années comme coach. Alexandre est en train de poursuivre des études pour la maîtrise en théologie et il réussit avec brio, je devrais dire. Et Alexandre considérait sérieusement de partir aux États-Unis après sa maîtrise pour aller faire un doctorat plus académique et possiblement devenir une ressource au Québec dans ce domaine-là. Ceux qui me connaissent un peu, c'est pas mon genre de venir et d'essayer d'imposer ma vision des choses. Je n'aurais pas voulu m'opposer à un appel de Dieu sur la vie d'Alexandre et je crois que c'était le sentiment aussi des frères sur le conseil. Alors, je gardais ça dans mon cœur et je laissais les choses comme ça. Les premières discussions à cet effet-là sont venues d'Alexandre lui-même et personnellement, ça me réjouit que ça se soit passé comme ça. Nous avons demandé à Alexandre ce matin de venir vous partager un peu ce qu'il y a sur son cœur et sur celui de Cynthia. Et puis, je vais terminer après en vous partageant quelle sorte de requête on veut vous présenter et est-ce qu'on s'attend de l'Assemblée comme requête devant le Seigneur. Alors, je vais laisser la parole à Alex.
Est-ce que je peux y aller avec celui-là? Avec ce micro-là? On l'approche un petit peu. OK. Bonjour. C'est vraiment une joie de pouvoir... Oh boy! De pouvoir venir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et puis, je pense que vraiment ça vient de Dieu. Je vous ai partagé l'été dernier, un peu au début d'une prédication, ce qui s'en venait pour moi. Comme vous le savez, je suis aux études à temps plein maintenant, faire ma maîtrise en divinité. Et puis, j'arrivais à un point où ce que j'appellerais une croisée de chemin. Après 2 ans d'études complétées, puis maintenant 2 ans et demi, il me reste 1 an et demi. Et puis, j'arrivais à un moment où je devais prendre une décision. Est-ce que je pars aux États-Unis pour une année, pour compléter la maîtrise? Et comme Yannick l'a mentionné, je commençais à réfléchir aussi, est-ce que le Seigneur ne veut pas que je continue, que je poursuive mes études à plus long terme, avec un doctorat et tout ça? Et puis, ces réflexions-là, ben, avançaient. Et puis, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Puis, dans le sens, est-ce qu'il faut que je parte pour une année aux États-Unis? Est-ce qu'il faut que je parte pour plus longtemps? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Et puis, vous savez, j'avais des plans pour les études supérieures, mais est-ce que le Seigneur ne voudrait pas que je commence déjà à œuvrer déjà pour lui dans le ministère pastoral et poursuivre les études supérieures peut-être plus tard? Vous savez, plein de questions, mais peu de réponses. Mais pendant toutes ces réflexions-là, j'avais certainement un désir sur mon cœur. Et mon désir, je peux vous dire, on en parle souvent, j'en ai parlé souvent avec Cynthia, mon désir, ce n'était pas de partir. Plus profond de moi, je pense que ça pourrait être bénéfique, mais au plus profond de moi, le fardeau que j'avais sur mon cœur, c'était de pouvoir rester ici, de pouvoir continuer à œuvrer ici dans l'Église et de pouvoir grandir dans mon ministère pastoral ici à Longueuil. Pourquoi? Parce que je pense, personnellement, je suis convaincu que j'ai un amour grandissant pour l'Église de l'Espoir, pour l'Église ici à Longueuil. Ça fait maintenant 12 ans que je suis ici, que Le Seigneur m'a fait grandir en lui et puis dans le ministère. Et puis j'ai un attachement particulier et Cynthia aussi a un très grand attachement pour l'Église ici. Alors, avec ce fardeau-là sur mon cœur et puis d'autres réflexions, qu'est-ce qui va se passer? Avec les réflexions qu'on a eues au conseil, c'est clair qu'il y avait une priorité au niveau de l'évangélisation. On veut aller de l'avant avec l'évangélisation. Et j'étais parmi ceux qui avaient un fardeau très lourd sur mon cœur pour que l'évangélisation puisse progresser dans l'Église de l'espoir et qu'on puisse gagner des âmes à Christ. Et puis, je ne voulais pas trop me mettre de l'avant. Vous savez, on est en train de réfléchir, on va chercher un autre pasteur. Puis Alexandre, moi, ma personnalité faisait en sorte que je ne voulais pas me proposer comme dire, « Les gars, c'est moi votre gars, là, tu sais. » Absolument pas. Mais tout ça pour dire que quand même, avec des discussions avec Yannick dans le cadre du coaching, j'ai réalisé davantage que j'aimais être sur le plancher des vaches, comme on dit. C'est pas dans des bibliothèques à passer des 40 heures par semaine à étudier qui, je dirais, me fait triper. Mais vraiment, c'est d'être avec les gens, puis de pouvoir œuvrer, d'être avec les gens, puis de pouvoir m'impliquer dans le ministère, à partager l'Évangile, prêcher l'Évangile. Et avec tous les beaux défis qu'il y a à l'Église de l'Espoir, certainement, je voyais ça comme une façon, peut-être, pour moi, de grandir dans mon ministère, que le Seigneur m'utilise ici comme pasteur assistant à l'évangélisation, etc. C'est un moyen pour moi de grandir dans le ministère pastoral lui-même, avec l'expérience. Alors, avec les discussions qu'on a eues au conseil, que j'ai eues avec Yannick, avec les gens que j'ai consultés autour de moi, on a mis ça dans la prière, Cynthia et moi, puis on est arrivé à une conclusion. On a décidé de se rendre disponible pour l'Église de l'Espoir, dans l'éventualité qu'il y aurait une offre qui viendrait. Et puis ça, c'est vraiment avec une conviction sur mon cœur. Maintenant, c'est comme on est devant, comme je disais, on est à la croisée des chemins, et on place ça devant le Seigneur et on se demande, est-ce que c'est ça que tu veux, Seigneur? Et puis, on veut s'attendre à Dieu, mais certainement notre désir, par amour pour l'Église, par amour pour le Seigneur, c'est de pouvoir être disponible pour œuvrer ici, continuer d'œuvrer ici. Voilà. Tantôt, on a chanté dans la louange. On a chanté un chant qui dit « À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il prendra soin de moi et je sais qu'il s'occupe de moi. » Lorsque j'ai eu des décisions à prendre dans ma vie, j'ai cherché à m'attendre à Dieu. Et le Seigneur m'a donné à un certain moment donné un passage qu'on connaît bien, mais qui a été un réconfort pour moi. Dans le psaume 84, verset 6, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et maintenant, ce qu'on veut faire, comme Yannick le partage, c'est placer ça devant le Seigneur. Est-ce que, Seigneur, c'est ça ta volonté pour ma famille, pour moi, pour mon ministère? Et on veut chercher à s'attendre à Dieu pour ça. Merci.
Alors, quelques mots sur Alexandre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le connaît bien. Évidemment, nous autres, on a le privilège de travailler avec lui. J'ai le privilège aussi de m'investir dans la vie aussi tranquillement de Cynthia à travers le coaching. Je les rencontre une fois sur deux, le couple. Alexandre et Cynthia sont parfaitement intégrés dans l'Église ici. Et si Dieu confirmait un appel sur leur vie, ce serait un privilège pour nous parce que c'est des gens qui marchent avec nous, qui leur cœur bat au même rythme que notre cœur, leur vision est claire, la philosophie du ministère est là, les convictions théologiques sont claires, nous avançons déjà ensemble comme un seul homme. Leur ministère est grandement apprécié, autant pour leur service que pour leur attitude de cœur et leur passion pour Dieu, à tous les deux, j'entends. Les Marquis sont disposés aussi à s'attacher à l'Église de l'Espoir pour une période d'au moins 5 à 10 ans. Et c'est bien pour une Église d'envoyer des ouvriers. Vous savez qu'on a une vision missionnaire, comme Hugo est parti à Rivière-du-Loup, Jean-Philippe est parti pour Alma, Normand vient de partir pour Gatineau. Gloire à Dieu. En même temps, lorsqu'on considérait ces choses, nous avons le sentiment que l'Église est probablement mûre pour un peu plus de stabilité et pour pouvoir monter l'équipe ensemble Donc, un engagement possible de la famille Marquis envers l'Église nous sourit beaucoup. Alexandre est un homme d'équipe, c'est un homme de conviction. Donc, des frères comme ces frères-là sur le conseil sont des gens qui sont capables de me regarder dans les yeux et de me dire, Yannick, j'ai besoin qu'on se penche encore sur la parole. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis là. Les gars sont capables de le faire. Mais en même temps, Alexandre, comme les autres frères, sont des hommes d'équipe. Et donc, c'est des hommes qui, dans leur cœur, sont toujours prêts à se soumettre à l'ensemble de l'équipe. Je peux vous dire que c'est un des atouts les plus importants pour faire avancer une assemblée. Alexandre a un don d'enseignant et très certainement est appelé éventuellement à prendre la charge d'une assemblée. Cela fait aucun doute dans mon esprit, mais ces mêmes qualités-là font de lui un bon complément à mon travail pastoral. Et donc, même si la charge première d'Alexandre serait de superviser, de développer l'évangélisation, il pourrait, sur une base régulière ou de temps en temps, prendre la charge de la prédication et donc se développer comme prédicateur. L'assemblée est en train de grandir. C'est peut-être un peu bête ce que je veux dire, mais de moins en moins, on va pouvoir inviter quelqu'un qui commence à prêcher, à venir prendre la place ici. Et donc, de voir quelqu'un qui prend à travers les années du coffre et de l'expérience va être un élément majeur. Alexandre est une personne comme ça et il aura l'occasion d'enseigner tous les dimanches, évidemment, avec notre programme de cours biblique. Donc, il va pouvoir se développer énormément, si Dieu confirme, comme enseignant. Alexandre désire ardemment voir l'Église de l'espoir devenir une Église évangéliste, si je puis dire. Le même genre de passion qui brûlait dans le cœur d'Hugo brûle dans le cœur d'Alexandre. Je le sais parce que je suis près de lui depuis quelques années. Alexandre est un homme de cœur, il est un homme de passion pour Jésus-Christ et c'est à ce prix-là que nous gagnerons la ville qui est devant nous pour Christ. Maintenant, j'aimerais juste vous partager un passage dans 2 Timothée 2. Et Paul résume très bien ma pensée sur Alexandre. Dans 2 Timothée 2:2, voici ce que Paul dit. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alexandre est un homme fidèle à Jésus-Christ. C'est un pécheur comme moi. C'est un homme qui a besoin de grandir comme moi. C'est un homme fidèle à Jésus-Christ. Et c'est un homme qui, de plus en plus, est capable de confier le bon dépôt que nous avons reçu des apôtres à la prochaine génération. Le prochain verset est important pour moi aussi. Je vous dirais aussi important. Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Sans l'ombre d'un doute, je peux vous dire qu'Alexandre est prêt à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et Alexandre n'est pas de ces hommes, Cynthia n'est pas de ces femmes qui s'embarrassent des choses de la vie, qui les ralentiraient dans leur course. Ils ont une seule passion, voir Christ briller dans leur vie et briller autour d'eux. Voici pour mon témoignage envers les Marquis. Voici ce qu'on fait avec vous ce matin, frères et sœurs. On n'est pas en train de vous annoncer une décision. Vous êtes dans une assemblée congrégationaliste. Pour certains d'entre vous, ça ne veut absolument rien dire. En deux mots, voici ce que ça veut dire. Nous croyons que Dieu parle à l'Église à travers les anciens et que Dieu confirme ce qu'il a à dire à cette Église à travers toute l'assemblée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelque part au mois de janvier, l'Assemblée, dans une réunion de membres, va être appelée à se prononcer pour voir si ce que nous croyons venir de Dieu vient bel et bien de Dieu. Votre amen sera pour nous l'amen de Dieu. Donc, ce qu'on vous demande de faire ce matin, l'appel qu'on vous lance, c'est un appel à la prière. Parce que cette Assemblée va devoir éventuellement se prononcer sur cette question. On vous demande de vous engager ce matin à prier régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement. Ceux qui sont exercés au jeûne, c'est le temps d'aller dans le jeûne. Et de dire, Seigneur, viens parler à ton peuple, viens nous dire si c'est ça ta volonté. Une des raisons pour cela qui est bien évidente, c'est qu'il y a un défi financier qui est associé à ça. Le projet qu'on aurait, ce serait de prendre une décision en janvier pour voir Alexandre entrer dans l'œuvre à 3 jours/semaine en septembre 2010, et l'amener progressivement à temps plein dans les 3 prochaines années, dans les 3 années suivantes, au fur et à mesure que la maîtrise est en train de se compléter. Vous devez savoir que depuis le début de sa formation, Alexandre donne déjà une journée semaine à l'Assemblée ici dans son service. C'est entre autres pour ça que vous voyez la louange continuer à progresser et à avancer. Donc, on vous encourage, on vous demande d'aller dans la prière là-dessus parce que vous allez devoir vous prononcer. On vous demande d'aller dans la prière là-dessus parce que nous ne voulons pas avancer si ça ne vient pas de Dieu. Nous allons regarder comment se termine l'année. Déjà, Dieu fait des belles choses à travers les dernières semaines. On est encouragés, mais nous ne viendrons pas devant vous avec un projet qui ne serait pas sage. Donc, on est très attentifs actuellement. On est en train de dire, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Il y a ça sur notre cœur, il y a des obstacles. Est-ce que ça vient de toi, ça ne vient pas de toi? Et on attend la réponse de Dieu. Cette réponse-là va être, entre autres, à travers les finances, mais à travers le cœur et le pouls de l'Église. Lorsqu'on a partagé ça avec lors de la réunion des leaders, la réponse était très positive. C'était une étape importante pour nous. Maintenant, on va être attentif dans les prochaines semaines et d'ici au moment où on va appeler l'Église à prendre une décision. Vous savez, on sert un grand Dieu. Il y a de grands défis, mais nous voulons avancer. William Carey, qui a été un missionnaire évangéliste, qui est parti justement aux Indes dans une période extrêmement difficile, a dit ceci, « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. » C'est dans cet esprit-là, dans cette pensée-là, qu'on vous convoque à la prière pour les prochaines semaines, qu'on vous demande de supplier notre Dieu à venir parler à son assemblée et de nous montrer si ce projet-là vient bel et bien du Seigneur. Est-ce que vous allez être avec nous dans la prière? Amen. Merci, frères et sœurs. On compte sur vous, on compte sur vos prières et on est confiant que le Seigneur va nous parler. On va tourner ensemble dans la parole de Dieu, dans Matthieu au chapitre 21. Matthieu 21, et Stéphane va nous faire la lecture des versets 12 à 17. Alors, s'il y a des gens qui auraient besoin d'avoir une copie des Écritures, parce que vous n'avez pas une Bible avec vous, juste levez la main. Les placeurs vont vous apporter une Bible tournée dans Matthieu 21, versets 12 à 17. On va prendre les engagements la semaine prochaine au niveau de la prière. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Et lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit.
C'était la parole de Dieu. On va se courber ensemble pour prier ce grand Dieu. Père éternel, tu as parlé à mon cœur tout à l'heure à travers la louange. Tu es un ami fidèle, Seigneur Jésus, qui me prend la main dans mes moments de faiblesse, dans mes moments de découragement, lorsque je traverse des sentiers rocailleux. Seigneur Jésus, tu es glorieux et majestueux. Je veux, Seigneur, te demander ta grâce ce matin, alors que nous allons nous pencher sur ta parole, sur ce passage qui nous parle de ta beauté et de ta grandeur, Jésus, qui nous parle de l'œuvre que tu es venu accomplir sur cette terre. Seigneur, viens toucher nos cœurs, nous montrer comme ces temps et ces moments de ta venue sur terre venaient bouleverser l'histoire de l'humanité. Des jours nouveaux commençaient, une nouvelle relation avec Dieu était annoncée. Père, j'aimerais te prier pour ceux ici ce matin qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui ne viennent pas quotidiennement te rencontrer au nom de Jésus, mais qui parlent à un Dieu inconnu, qu'ils ne connaissent pas intimement parce qu'ils ne connaissent pas ton Fils, Père. Viens leur parler de ton Fils ce matin. Et viens nous dire, Seigneur, à chacun d'entre nous qui connaissons Jésus, combien il est grand et merveilleux, et combien il nous a ouvert accès auprès de toi, Père. Je te prie, Seigneur, d'être avec ton serviteur. J'ai besoin que ton esprit anime ma bouche et mon cœur ce matin, afin que tout ce que j'apporte soit vrai et puissant par ta grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Dieu n'a jamais eu le projet de se donner une super religion remplie de rites à n'en plus finir, avec un système hiérarchique élaboré où les dirigeants pourraient endormir les masses et profiter des plus faibles pour s'enrichir. Je ne sais pas si c'est votre vision de la religion, cela n'a jamais été le projet de Dieu. Ou encore un système religieux qui servirait aux hommes à se donner bonne conscience. Vous savez, pour bien des gens, la religion sert à se donner bonne conscience. C'est un rituel qui permet de te donner bonne conscience. Tu es une personne la semaine, une autre personne à l'église, et tu apaises ta conscience en venant à l'église ou pour d'autres en allant à la mosquée ou dans une synagogue. Ce sont tous des religions pour se donner bonne conscience pour bien des gens. C'est un système qui te permet d'avoir une double vie. Et si je voulais parodier cela, je n'aurais pas pu faire mieux que Francis Coppola avec le film Le Parrain, lorsqu'on pense à ces mafieux italiens qui chaque dimanche vont à la messe pour se donner bonne conscience. Ça serait la parodie ultime de ce que peut devenir la religion au cœur des hommes. On les imagine en train d'aller à la messe, puis en se passant des petits papiers en sortant pour aller régler un compte à un puis à un autre, aller régler leur vendetta pendant la semaine. Je comprends que c'est gros, c'est une parodie, mais en même temps, ça parle d'un système religieux qui résume la conception que bien des hommes ont de la religion. Pour bien des gens, la religion, c'est l'occasion d'être Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Une personne la semaine, une autre personne le dimanche matin, tout simplement pour se donner bonne conscience. Et je ne suis pas en train de parler, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de parler de toutes ces personnes qui tentent de vivre leur foi toute la semaine, mais qui ont de la difficulté à le faire. Ce n'est pas de ça dont je parle, parce que nous sommes tous pécheurs. Il y a une lutte bien réelle. Très souvent, lorsque nous venons dans la louange le dimanche matin, nous disons « Seigneur, pardonne-moi ». Ce n'est pas de cela dont je parle, dans ce que je suis en train de dénoncer ici. Nous avons tous des luttes, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits, nous allons avoir des luttes jusqu'à la fin. Et ça, c'est normal, d'accord? Ce dont je parle, c'est le danger qui nous guette d'être des hypocrites, de jouer un jeu avec la religion. Dieu n'a jamais eu comme projet de mettre sur pied une religion qui soit un jeu. Jamais. Alors, si dans votre esprit, la religion est un système qui permet à des chefs religieux d'abuser d'esprits faibles, ou si vous voyez la religion comme un système qui permet à des hypocrites de se donner une bonne conscience le dimanche matin, je vous assure que cela n'a jamais été le projet de Dieu. Jamais. Dieu n'a jamais voulu de cette religiosité crasse dont les hommes voudraient servir. Et pour s'assurer d'être bien entendu sur cette question-là, le Fils de Dieu lui-même est venu au temple à Jérusalem pour adresser cette question, et cela l'a conduit jusqu'à la croix quelques jours plus tard. Voyez-vous, lorsque le temple de Dieu a été construit pour la première fois à Jérusalem par le grand roi Salomon, voici, ce temple devait être un endroit simplement où l'on pouvait venir adorer Dieu, se repentir de ses péchés devant Dieu, se réconcilier avec son Dieu, célébrer les bontés de Dieu. Cette semaine, ceux qui sont en train de suivre le plan de lecture avec nous, on a lu un passage magnifique dans 2 Chroniques 6, lors de la dédicace du temple, et le roi Salomon fait une prière devant Dieu. Je vais vous lire quelques versets dans 2 Chroniques 6. Soyez bien attentifs, vous voyez le but de ce temple. C'est le roi Salomon qui dit dans sa prière, «
Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Ainsi, le temple devait servir à nourrir une relation avec Dieu. Devait aussi être un témoignage puissant pour toutes les nations de la terre. Voici comment on vient rencontrer Dieu. Voici comment on se réconcilie avec Dieu. Voici comment on grandit dans notre communion et dans notre passion pour Dieu. C'est à cela que devait servir le temple. Il devait même être une invitation pour que toutes les nations de la terre entrent en relation avec Dieu. Et dans Matthieu 21, lorsque Jésus dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », Jésus est en train de citer Ésaïe 53. Non, Ésaïe 56. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 56. C'est un des plus gros livres de l'Ancien Testament au niveau des prophètes. Ésaïe 56. Je vais vous lire plusieurs versets ce matin parce qu'ils s'expliquent d'eux-mêmes. Quand Jésus entre dans le temple, commence à chasser les vendeurs du temple, il cite une toute petite partie de ce verset, mais Jésus a à l'esprit tout ce passage, je peux vous l'assurer. Ésaïe 56, « Ainsi parle l'Éternel » au verset 1. « Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Voyez-vous, l'étranger, ce sont les nations ici, les non-juifs. Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Voyez-vous, l'eunuque était un homme stérile et représente, il y aurait beaucoup plus à dire, mais je vais le résumer comme ça, représente la personne handicapée ou la personne atteinte d'une maladie. Et souvent, à cette époque-là, ces gens étaient vus comme des gens qui étaient pécheurs et sous un jugement de Dieu. Et Dieu veut les conforter, les réconforter et leur dire qu'ils peuvent s'approcher de Dieu, qu'ils sont bienvenus. Alors, je continue la lecture du passage. « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà assemblés. C'était ça le projet de Dieu pour son temple. Une maison de prière pour toutes les nations, pour tous ceux qui auraient pu se croire rejetés par Dieu. Ce n'était pas un système, une religion, mais une maison de prière où tous les hommes pourraient s'approcher de Dieu, entrer en relation avec Dieu, venir se réconcilier avec Dieu. Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus au moins. Alors, depuis longtemps, le temple n'était pas cette maison de prière selon le cœur de Dieu, où toutes les nations de la terre pouvaient venir. Au contraire, on voit dans les échanges que Jésus a avec les chefs religieux à l'époque, et ça depuis pas mal longtemps maintenant dans l'Évangile de Matthieu, au contraire, on voit que les chefs religieux en avaient fait un objet d'orgueil. Les chefs religieux s'appuyaient sur le temple pour se dire « choisis de Dieu ». Et ils exploitaient un commerce très lucratif dans le temple. Une partie de la cour du temple avait été transformée en supermarché religieux, comme on en voit encore aujourd'hui sur toutes sortes de sites religieux sur la terre et même à Montréal. Et c'était devenu un supermarché de la religion, très lucratif. Maintenant, le plus scandaleux aux yeux de Jésus était le fait que ces gens religieux s'appuyaient sur leurs rituels, des sacrifices et toutes sortes de rites pour se donner bonne conscience sans chercher de tout cœur à vivre une relation avec Dieu. Lorsque le temple devait être une maison de prière, c'était une place pour entrer en relation avec Dieu. Vivre une relation avec Dieu et des relations d'amour et de compassion pour leurs prochains. Jésus a dit que les deux plus grands commandements sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, je résume, et ton prochain comme toi-même. » C'est ça le but de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Le temple devait simplement être un canal pour entrer en relation avec Dieu et s'approcher de Dieu. Aller au temple, venir adorer, venir confesser ses péchés, offrir des sacrifices d'action de grâce et d'expiation aurait dû animer une passion profonde pour ces deux commandements. Ce n'était pas le cas, bien au contraire. En fait, le jugement de Dieu était arrêté depuis longtemps sur le temple et sur Israël. Et lorsque Jésus dit « Vous en faites une caverne de voleurs », regardez avec moi dans Matthieu 21, revenez avec moi. Au verset 13, Jésus dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Jésus est en train de citer Ésaïe 56. « Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Jésus est en train de citer Jérémie 7, un autre prophète de l'Ancien Testament. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Jérémie 7. Et encore une fois, je vais vous lire un long passage qui nous aide à comprendre l'intervention de Jésus. Quand Jésus entre dans le temple et commence à chasser les vendeurs du temple, il est en train de prononcer un jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Jérémie 7, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. D'accord? Dieu parle à son prophète. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Crie haut et fort. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison, sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, « Nous sommes délivrés !» Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. » Voilà les passages que Jésus cite et qu'il a à l'esprit, Ésaïe 56 et Jérémie 7, alors qu'il chasse les vendeurs du temple. Jésus vient annoncer un jugement sur son peuple. Il vient annoncer un jugement et des jours nouveaux. Comme on l'a dit il y a quelques semaines, en entrant dans le début avec Matthieu 21, nous entrons dans la dernière semaine avant la crucifixion de Jésus. Jésus vient à Jérusalem pour accomplir ce qui avait été annoncé depuis des temps très lointains. Et comme on va le voir au chapitre 24, Jésus va carrément annoncer la destruction prochaine du temple, ce qui se produira quelques 30 ans plus tard, en 70. On va voir ça dans Matthieu 24 éventuellement. Jésus vient prononcer un jugement sur la nation, sur son peuple, qui a transformé une maison de prière pour tous les peuples en un système religieux rempli d'hommeries. C'est ça que Jésus s'en vient faire. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné son peuple, n'a pas abandonné les hommes, parce que Jésus vient aussi annoncer des jours nouveaux. Alors même que Jésus est dans le temple en train de chasser les vendeurs du temple, qui est en train de bousculer les institutions religieuses, qu'il arrive avec une autorité arrogante s'il n'était pas le Fils de Dieu. Alors même qu'il est en train de faire ça, il fait des miracles aussi. Et il guérit des aveugles et des boiteux dans le temple. Et en plus de cela, pendant que cette scène est en train de se dérouler, des enfants, des petits-enfants, qui faisaient partie de ceux qui sont entrés avec lui. D'accord? Le début du chapitre 21, l'entrée triomphale de Jésus, la foule est là, il acclame, il y a des enfants, et probablement qu'il y a des enfants qui l'ont accompagné jusqu'au temple, et eux continuent à crier « Hosanna au fils de David! » Ils sont encore en train de le louer dans l'enceinte même du temple. « Hosanna au fils de David! » Et les chefs religieux sont indignés parce que ces enfants sont en train de dire que Jésus est l'héritier des promesses qui avaient été faites au grand roi David, qu'il est le Messie qui avait été annoncé, qu'il est le sauveur du peuple d'Israël, et Jésus les laisse faire et accepte les louanges. Alors, ils sont indignés. Dans les versets qui suivent, Jésus va encore citer un passage de l'Ancien Testament. C'est une citation incroyable, d'accord? Et je vous le dis parce que j'ai pas le temps, comme vous pouvez le deviner, de m'arrêter vraiment sur ce passage-là ce matin, mais je veux vous encourager cette semaine à aller prendre le temps de venir adorer Christ en lisant ce passage. Jésus cite le psaume 8. C'est bouleversant ce que Jésus fait avec ce texte-là parce qu'il s'attribue les louanges qui sont prononcées dans le psaume 8. C'est vraiment fantastique. Prenez le temps d'aller méditer sur ça. En deux mots, Jésus nous rappelle, en expliquant les louanges des enfants, en citant le psaume 8, Jésus nous rappelle qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Ainsi, loin d'abandonner les hommes, Dieu est venu lui-même au milieu de nous, dans la personne de son Fils. Ce Fils, Jésus-Christ, est venu prononcer un jugement sur Israël et annoncer des jours nouveaux. Bientôt, le temple de Jérusalem n'aura plus sa raison d'être. C'est impossible pour les Juifs de saisir ces choses encore. Le temple avait été donné comme un endroit pour venir parler à Dieu, se réconcilier avec Dieu, être entendu de Dieu. Mais bientôt, dans quelques jours, nous sommes dans la dernière semaine avant la crucifixion, dans quelques jours, Jésus-Christ va être offert comme l'ultime sacrifice, la dernière victime expiatoire, le sacrifice parfait. Et les hommes n'auront plus besoin de venir à Jérusalem pour adorer Dieu. Ils n'auront plus besoin de venir au temple pour offrir des sacrifices. Il n'y aura plus de bâtiment nécessaire pour entrer en relation avec Dieu, mais seulement une personne, Jésus-Christ. Une personne qui a accompli, au moment de sa crucifixion et de sa résurrection, parfaitement tout ce que le temple accomplissait. Une personne par qui toutes les nations de la terre peuvent entrer en relation avec Dieu, se réconcilier avec Dieu, être pardonnées de leurs péchés, plus besoin d'invoquer ou d'aller au temple de Jérusalem pour que Dieu nous entende, prier au nom de Jésus-Christ et le Père entend vos prières. Amen. Jésus-Christ est venu accomplir le temple complètement et entièrement. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas de superbe édifice, il n'y a qu'une relation avec une personne, Jésus-Christ. Les chefs religieux de l'époque, pour la plupart, n'ont pas saisi qui était Jésus. Ils n'ont rien compris. Au contraire, Matthieu nous dit, c'est une phrase assez même inquiétante qui nous parle du cœur de l'homme dans Matthieu 21, verset 15, il dit, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils faisaient. » Comment peut-on être indigné de choses merveilleuses? Le cœur de l'homme est-il si têtu, si fermé, tellement pris dans ses conceptions et ses préjugés qu'il ne peut pas voir lorsque Dieu se manifeste lui-même au milieu des hommes? Matthieu nous rappelle dans ce passage qu'il faut avoir le cœur et l'ouverture d'un petit enfant pour pouvoir chanter les louanges de Jésus-Christ et voir les choses merveilleuses qu'il fait. Est-ce que vous êtes pris dans un carcan, dans des préjugés contre la religion, contre la Bible, contre Dieu? Pris dans des fausses conceptions qui vous empêchent de voir la gloire de Christ? Est-ce que vous vous donnez comme excuse des scandales? Et Dieu sait qu'il y en a eu des scandales au nom de prédicateurs, d'églises et un paquet d'affaires. Et vous n'êtes plus capable de vous rendre à Dieu et de découvrir Christ à cause de ces choses, les prenant comme prétexte, comme excuse pour garder votre cœur fermé. Jésus-Christ n'a-t-il pas fait des choses merveilleuses? En naissant au milieu de nous humblement, en donnant sa propre vie sur cette croix, en ressuscitant d'entre les morts, en transformant nos vies, je peux en témoigner. Mais resterez-vous, comme ces chefs religieux, pris dans vos idées, dans vos carcans, incapables d'avoir un cœur d'enfant, comme ces petits-enfants qui sont venus louer et crier « Hosanna au fils de David ». Et frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, qui avons un jour été touchés par Christ, parce que Jésus est venu et nous a touchés comme il a touché ses boiteux et ses aveugles. Et il est venu prendre sur lui nos infirmités, guérir nos infirmités. C'est une exhortation ce matin à nous rappeler que nous devons garder ces cœurs d'enfants pour être émerveillés encore par la beauté et la splendeur de Christ. Nous n'avons plus besoin d'un temple. Nous avons accès auprès du Père à tout moment dans le simple nom de Jésus-Christ. Et il nous accompagne jusqu'à son retour. On va prier ensemble. Ô Seigneur Jésus, tu sais, j'avais besoin que tu mettes ce passage devant mes yeux cette semaine. J'avais besoin que tu me dises, Seigneur, combien tu es celui qui touche et qui guérit. Que tu me rappelles ta splendeur et ta beauté. Et Seigneur, nous sommes des êtres qui sommes tellement religieux par nature. Nous tombons dans nos routines, nos systèmes et nos rites. Et nous avons besoin de nous rappeler que ce que tu désires, Seigneur, ce n'est pas un temple, ce ne sont pas des rituels, ce ne sont pas des pratiques, mais une communion, une relation avec toi par la personne de ton Fils. Et Seigneur, certains d'entre nous ici ce matin ont besoin que tu fasses tomber des écailles de leurs yeux pour qu'ils abandonnent leurs idées préconçues contre toi, contre ton Fils, contre ta parole, et qu'ils soient émerveillés par ta beauté, Jésus-Christ. Viens dans ta grâce alors que nous nous préparons à célébrer ta venue, Jésus, dans quelques semaines, ta naissance. Viens, Seigneur, faire naître en nous cet esprit de louange qu'il y avait dans la bouche de ses enfants. C'est toi qui leur as donné ces louanges. Donne-nous, Seigneur, un cœur de louange et d'adoration dans les prochaines semaines. Et que ton nom soit béni au milieu de nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va se lever ensemble et on va louer notre grand Dieu.